Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le journal, c'est avec vous, Sophie Orange, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. La générosité du plus gros vainqueur français de l'Euro Million. Ce retraité du sud de la France vient d'encaisser son chèque de 200 millions, un record. D'autres auraient acheté des voitures de luxe ou fait le tour du monde, mais lui a décidé d'aider les autres. Ce gagnant souhaite rester anonyme. C'est donc Isabelle Césari, la responsable des relations grand gagnant de la Française des Jeux, qui est son porte-parole ce matin, et c'est sur RTL.
Ce qu'il m'a confié très vite, en fait, c'est qu'il jouait pour pouvoir donner et aider ceux qui n'avaient pas eu de chance dans la vie. Alors, il envisage de créer sa fondation. Ce qu'il a vraiment à cœur, c'est le domaine de la santé. Il a fréquenté les hôpitaux, il a vu les gens souffrir, les malades, ceux qui les accompagnent. Et il a envie d'aider toutes ces personnes. Donc c'est un peu le bonheur par ricochet. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est « je me sens monsieur tout le monde ». Donc je suis quelqu'un de très simple, j'ai des goûts simples. Il aime avant tout le partage.
Isabelle Césari, qui était l'invitée d'Amandine Bégaud dans RTL Petit Matin.
200 millions d'euros, c'est inconcevable.
Il y a trop de zéros.
Non, on a du mal à imaginer. Ouais. Les frontières sont toujours fermées ce matin entre le Royaume-Uni et la France, Sophie.
Plus d'avions, plus de bateaux, plus de trains qui traversent la Manche. Résultat, l'usine Toyota de Valenciennes, qui n'a plus de pièces détachées pour fabriquer ses Yaris, va fermer tout à l'heure au lieu de demain soir pour Noël. Et dans l'autre sens aussi, ça coince. Des livreurs qui viennent en Angleterre ont peur de ne pas pouvoir repartir. Un casse-tête pour Adrien Belot, qui importe des spécialités françaises au Royaume-Uni.
On serait bien passé de ça en plus. Là, le problème, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de commandes qui étaient basées avec des chapons, des foie gras. Les clients vont avoir besoin pour leur réveillon. Je suis obligé de payer un livreur en surplus. Il ne va pas pouvoir repartir. Donc, le temps qui va passer ici, c'est-à-dire qu'il va falloir que je le paye, c'est énormément de surcoûts. Le fait du blocus nous met une estocade pas négligeable et en effet, ça rajoute encore une dose de stress qu'on n'avait pas particulièrement besoin.
Le patron de French Click, interrogé pour RTL par Martial Liu, il réalise normalement 15% de son chiffre d'affaires à Noël.
Les premiers résidents des EHPAD devraient être vaccinés en toute fin de semaine.
Le temps pour la Haute Autorité de Santé de valider les conditions d'utilisation, les contre-indications. Ensuite, c'est toute une chaîne logistique qui va se mettre en place. Un démarrage en douceur en décembre avec un point clé, comment recueillir le consentement des résidents des EHPAD. C'est la grande question pour Pascal Chanvert, le président de l'Association des directeurs d'établissements au service des personnes âgées.
Je pense que symboliquement, le Premier ministre souhaite qu'avec une personne qui sera ravie d'être vaccinée, on lance cette campagne. Mais dans la plupart des établissements de France, il faudra attendre courant janvier. Il faut que l'État mette en place toute une procédure pour indiquer qui va décider, qui est en mesure de répondre ou qui devra être assisté. Il faut là-dessus une procédure qui n'existe pas. Donc tout ça va être assez compliqué à mettre en œuvre.
Pascal Chanvert, interrogé par Sophie Jousselin pour RTL. La colère des navetteurs, vous savez, sont ceux qui prennent le TGV tous les jours pour aller travailler. Eh bien, ils n'utilisent plus leur abonnement à cause du télétravail. Mais la SNCF, après avoir accepté un geste commercial en novembre, le refuse pour le mois de décembre. C'est l'incompréhension et la colère pour Anne, qui habite Lille et travaille à Paris.
La SNCF, ce mois-ci, hier, a prélevé la totalité des 586 euros, alors que jusqu'au 15 décembre, il y avait le confinement, on nous a demandé de rester chez nous, et que même là, maintenant, on nous demande de télétravailler. Ça veut dire que cet abonnement, on le paye plein pot, c'est une injustice, on est condamné à payer cet abonnement, qu'on puisse le prendre, qu'on ne puisse pas le prendre, qu'il y ait des TGV, qu'il n'y ait pas de TGV.
Témoignage recueilli par Éric Vanier pour RTL.
C'est encore mieux qu'un film d'espionnage. Tenez-vous bien, l'opposant russe Navalny a piégé l'agent secret qu'il a sans doute empoisonné en août dernier.
L'ennemi de Vladimir Poutine s'est fait passer pour un proche du secrétaire du Conseil de sécurité russe. La suite du scénario, c'est vous qui nous l'a raconté, Émilie Beaujard.
Oui, une longue conversation de 48 minutes. L'espion russe, d'abord méfiant, finit par révéler plusieurs détails de l'opération. Il pense en fait parler à un haut dirigeant de la sécurité russe et il explique, selon lui, pourquoi l'empoisonnement a échoué.
Le problème, c'est que l'ambulance et les secours sont arrivés très vite, vous voyez, et ils ont porté secours, ils ont prodigué les premiers soins. Tout ça a fait chuter le taux de toxicité du poison et ils lui ont aussi administré une sorte d'antidote. Les médecins ont agi vraiment très vite, donc ça explique en partie l'échec.
L'homme donne aussi des précisions sur le mode opératoire. La substance neurotoxique n'a pas été versée dans le thé de Navalny, mais badigeonnée sur ses vêtements. Le poison aurait ensuite traversé la peau et se serait répandu lentement dans son organisme. Et si aucune trace de poison n'a été trouvée trouvés sur place. C'est parce qu'une équipe de nettoyeurs a été envoyée à l'hôpital.
Il y avait un doute sur des possibles traces sur ses vêtements et notamment sur l'intérieur de son pantalon avec le frottement, vous comprenez ? Donc on a nettoyé tout le pantalon, tout est propre, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Les autorités russes parlent de provocation, elles ont toujours démenti être impliquées dans l'empoisonnement de l'opposant politique qui est toujours en convalescence en Allemagne.
Après les films d'espionnage, le théâtre à l'arrêt depuis des semaines pour protester contre leur fermeture, des comédiens du théâtre Olympia de Tours n'ont pas hésité à revisiter le Tartuffe de Molière en jouant dans un supermarché. Wow. Écoutez bien, et le message est très clair.
Il faut s'organiser pour prévenir au mieux les risques de santé. Ne faut-il pas aussi nous montrer solidaires et ne point désigner certains boucs émissaires? Les théâtres sont clos et non pas les marchés, étant plus contagieux quand on va au ciné.
Voilà, les théâtres sont clos. La colère de ces
devant
artistes.
Des clients médusés, voilà. Au milieu des supermarchés.
J'imagine, dans un supermarché. On sera avec un autre artiste dans 5 minutes. Philippe Geluck, le dessinateur, l'auteur, le créateur du chat. On aura besoin de son regard.